Il est 7h, bonjour, bon matin, ce lundi 19 janvier. On commence bien la semaine, on décolle ensemble un petit café, un croissant.
Radio Chablais, suivez-nous. On vous suit.
On prend tout ça avec direction le journal de Ludovic Turin. Bonjour.
Bonjour Yann, bonjour à tous. Les nouveaux tests des chiens de troupeau ne séduisent pas les éleveurs ovins et caprins. Mis en place en 2025, lors de la modification de l'ordonnance sur la chasse, la protection des mammifères et oiseaux sauvages, ils sont censés évaluer les aptitudes des chiens de troupeau. Le problème, selon la branche et certains élus chablaisiens, est que ces tests fédéraux, supervisés par Lefebvre, sont éloignés de la réalité du terrain. En effet, jusqu'alors, l'examen, reconnu par le canton, durait plusieurs mois et se faisait directement sur l'alpage. Désormais, il se déroule sur un jour et dans un lieu neutre. De plus, le chien est seul, sans berger et doit garder 5 moutons alors que les troupeaux comptent habituellement plusieurs centaines de bêtes. Les éleveurs souhaitent retourner aux pratiques pragmatiques qui ont fait leurs preuves selon eux. L'expérience du président de l'association des éleveurs ovins et caprins du Valais Roman et berger à Colombey-Murat, Claude Lathion.
Cet automne, j'ai dû les faire tester à ce test fédéral. J'ai pris ces chiens qui étaient sur un troupeau de 1000 bêtes. Je les ai embarqués le mardi, le mercredi, je les ai posés sur un autre alpage avec seulement 5 moutons, pas de berger, pas de clôture, aucun repère. Et puis malheureusement, ces chiens, ils ont loupé le test parce qu'ils n'étaient pas fidèles au troupeau. Ils peuvent repasser le test, mais moi, il faut quand même que je puisse me retourner. Donc j'ai repris un petit chiot, mais pour qu'il soit testé, je dois attendre qu'il soit âgé de 18 mois. Et puis ce qui est vraiment regrettable, c'est que ces chiens qu'on a formé nous, ils ont fait un superbe boulot pendant 3 ans sur nos alpages. Il y a eu moins de problèmes avec le tourisme, moins d'attaques comparé à des chiens fédéraux.
De leur côté, les éleveurs ne sont pas opposés à ces tests uniques. Ce qu'ils dénoncent, c'est leur déconnexion avec le réel. Un argument repris à Berne par la conseillère aux États chablaisiennes Marianne Marais, qui a déposé une motion en décembre. Au cœur des critiques du système de la centrice de Trois-Torrents, le chien est retiré de son alpage pour le test. Marianne Marais.
Quand ils œuvrent, les chiens, c'est toujours sur les mêmes types d'alpages qui sont exploités par leurs propriétaires. Donc ça n'a déjà pas de sens parce que le chien est complètement stressé, il est complètement perdu quand il arrive dans un nouvel endroit. Et puis, j'ai envie de dire que pour finir, à force d'avoir des réponses qui n'en étaient pas, à mon sens, je me suis dit, puis là je vais y aller un peu fort, je me suis dit que finalement, ceux qui font passer ces tests préfèrent déplacer les chiens que se déplacer. Alors quand vous arrivez à des convictions comme ça, vous déposez une motion.
Des propos recueillis par Guillaume Abbé. L'enjeu est aussi financier. Actuellement, en cas d'incident survenu sur un alpage gardé par un chien, seulement testé par le canton, le berger n'aura droit à aucune indemnité de la part de la Berne fédérale.
Le Parlement des jeunes valaisans est de retour.
Et samedi matin à Sion, dans la salle du Grand Conseil valaisan, il a tenu sa session inaugurale, laquelle sera suivie de 3 autres sessions par année. À la suite d'élections menées dans les écoles valaisannes du secondaire 2, 60 étudiants venant de tout le canton, âgés de 14 à 20 ans, ont siégé une première fois lors de cette nouvelle législature. Élus pour un second mandat et étudiante en 4e année d'économie droit bilingue au lycée-collège de Saint-Maurice, Dalia Sfar revient sur les accomplissements de son premier mandat.
On a concrétisé 8 recommandations donc sur 4 thématiques différentes. Celle que j'ai l'idée, c'était sur le développement durable, donc avec des recommandations qui encourageaient des éco-comités dans les écoles ou qui parlaient par exemple de l'AG donc du train ou de l'AG culturel. Et puis j'ai aussi pu participer à la conférence Roman des enfants. Donc vraiment plein de projets qui m'ont permis de m'épanouir.
Un sujet signé Guillaume Abbé. Le ministre de la Défense, Martin Pfister, se rend aujourd'hui à Davos pour visiter ses troupes mobilisées à l'occasion du Forum économique mondial. Un dispositif de sécurité exceptionnel a été mis en place avec 5000 militaires et la protection de plus de 400 invités, dont 64 chefs d'État, pour assurer notamment la venue du président américain Donald Trump. Plusieurs manifestations contre sa présence sont prévues. Le gouvernement suisse, encore marqué par le drame de Crans-Montana, participera au Forum avec 4 conseillers fédéraux, incluant Guy Parmelin et Ignacio Cassis.
À l'étranger, le bilan s'alourdit après le grave accident ferroviaire en Espagne.
Au moins 21 personnes ont perdu la vie et plusieurs dizaines ont été blessées hier dans une collision entre 2 trains à grande vitesse près d'Adamuz en Andalousie. Un convoi de la compagnie Irio reliant Malaga à Madrid a déraillé avant de percuter un train qui circulait en sens inverse. Selon les autorités, 30 de blessés graves ont été hospitalisés. Le trafic à grande vitesse entre Madrid et le sud du pays est interrompu, au moins pour la journée d'aujourd'hui. Les autorités parlent d'une nuit de profonde douleur.
La Chine atteint son objectif de croissance, mais ralentit.
Pékin a enregistré une hausse du PIB de 5% en 2025, conforme aux attentes officielles, grâce notamment à la bonne tenue des exportations. Mais les chiffres du dernier trimestre montrent un net essoufflement avec une croissance limitée à 4,5%. La demande intérieure reste en perte de vitesse, pénalisée par une consommation faible et une crise persistante de l'immobilier. Les autorités mettent en avant la résilience de l'économie face aux tensions commerciales, tandis que plusieurs experts estiment que la croissance réelle est surestimée. En ski alpin, Atleli McGrath, trop fort pour les Suisses. Le skieur norvégien a remporté pour la deuxième fois de suite le slalom de Coupe du Monde de Wengen hier. Il a devancé le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen et le Norvégien Henrik Kristoffersen. Loïc Meillard n'a pas pu confirmer sa bonne première manche et son deuxième rang et termine au pied du podium. L'homme du jour côté suisse est Mathias Itten. Le Zougois a réalisé une superbe performance sur le deuxième tracé pour passer de la 23e à la 6e place. Il remplit ainsi les critères de sélection pour les Jeux Olympiques. À 26 ans, Mathias Itten vit la meilleure saison de sa carrière et ce n'est pas dû au hasard.
J'ai bien travaillé cet été. L'année dernière, je n'avais pas pu faire beaucoup de courses, d'entraînement, mais cette saison, je peux en faire plus, être plus constant et ça donne de la confiance en soi. Ça fait toute la différence. Maintenant, il faut continuer à y aller, étape par étape, course après course. Mais bien sûr que c'est incroyable que je remplisse les critères de sélection pour les Jeux Olympiques. Je n'aurais pas pu l'imaginer en début de saison.
Les prochains rendez-vous pour les slalomeurs, dimanche prochain à Kitzbühel. Un sujet de notre envoyé spécial à Wengen, Liliane Guenat.
Ski alpin toujours, Gaël Zulauf a longtemps tourné autour de la victoire en Coupe d'Europe. C'est désormais chose faite.
L'athlète du Pays d'en Haut s'est imposé hier sur la descente de Pastourne. Déjà deuxième et troisième dans la station autrichienne l'an dernier, le skieur de 25 ans est cette fois-ci monté sur la plus haute marche du podium, devançant le français Ken Caillot et l'allemand Félix Rösler. Le Damounais a ainsi signé le quatrième podium de sa carrière dans l'antichambre de la Coupe du Monde. Le martignerin Arnaud Boisset, lui aussi au départ de la descente de Pastourne, a pris le 12e rang.
En football, le FC Sion a partagé l'enjeu avec Bâle.
Les Valaisans ont concédé le nul un partout hier lors de la 20e journée de Super League. Surpris dès la 4e minute par Dani Ljuč sur un coup franc de Shaqiri, les hommes de Didier Tolo ont réagi après la pause. Rilind Nivokadze a servi Liam Chipperfield pour l'égalisation à la 58e, tandis que le portier valaisan Anthony Racioppi s'est montré décisif à plusieurs reprises. Si l'essai du Noir amène un bon point du FC Bâle, ils ont toutefois nourri certains regrets, à en croire leur entraîneur Didier Tolo.
Non, ben ça fait chier, mais j'ai confiance en ce groupe, j'ai confiance en la qualité de ce groupe. Et je veux dire, même avant le coup franc, on a une occasion, nous, juste dès la première minute. Voilà, on est capable de ressortir les ballons proprement, on est capable de jouer, on est capable de faire des triangles, c'est ce que je leur dis après le match. Il faut continuer dans ce sens-là. Il y a le résultat brut qui est peut-être décevant ou frustrant, mais le contenu du match est positif. Je pense qu'on a fait jeu égal et qu'on les a fait déjouer en ayant le ballon. On a bien fermé l'intérieur au départ et après on a continué. Et voilà, c'est un bon point. Maintenant, commencer l'année avec 4 points en une semaine, c'est bien.
Des propos recueillis par nos confrères de René FM. Cinquième, le FC Sion compte 4 points d'avance sur la 7e place du Lausanne Sport au soir de la 20e journée de Super League. Prochain match samedi à Tourbillon avec la réception du FC Lucerne. Et puis football toujours pour terminer, cruelle désillusion pour le Maroc à domicile. En finale de la Coupe d'Afrique des Nations hier à Rabat, les Lions de l'Atlas se sont inclinés 1-0 après prolongation face au Sénégal. Le but décisif a été inscrit par Pape Gueye à la 94e minute. Les Marocains ont tout tenté ensuite, touchant notamment la transversale mais sans succès. Le tournant du match reste ce pénalty manqué par Brahim Diaz à la toute fin du temps réglementaire. Le Sénégal décroche sa deuxième CAN après 2022, tandis que le Maroc attend toujours un nouveau sacre depuis 1976.